À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, il sera question de Sœur Amada Vigée, une fille d'un patriote de 1837. Et cette Amada Vigée est une Québécoise d'une énergie, d'un courage, d'une passion absolument phénoménale. Comment se fait-il qu'une Québécoise d'une telle qualité soit oubliée? On ne parle jamais d'Amada Vigée. Hospitalière de Saint-Joseph, fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Tracadie au Nouveau-Brunswick, c'est peut-être trop loin pour qu'on s'y intéresse, je ne comprends pas, et elle a aussi surtout fondé un lazaret, c'est-à-dire qu'elle avait plusieurs centaines de lépreux dont elle s'occupait. Phénoménal, phénoménal. Elle est morte en 1906, et c'est aussi l'anniversaire, aujourd'hui c'est le premier anniversaire du décès du cher père Ambroise Lafortune, bien oui. Décédé à 79 ans, il y a exactement un an. Un bonjour, je vous en parlerai. Sœur Nicole Bussière, l'archiviste des hospitalières de Saint-Joseph, sur l'avenue des Pins, là, à l'Hôtel-Dieu, m'a fait parvenir un exemplaire de la revue d'histoire de la Société historique Nicolas Vigée, où l'on trouve justement cette courte vie de Sœur Amada Vigée, cette fille d'un patriote de 1837, qui est la véritable fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Notre-Dame, c'est-à-dire de l'Hôtel-Dieu de Tracadie. C'est un texte de Sœur Corinne Laplante. Le 30 septembre 1868, par une expédition phénoménale de 6 hospitalières avec leurs costumes, là, de l'Hôtel-Dieu de Saint-Joseph de Montréal. Et puis, plutôt, elles arrivent au presbytère de Tracadie. Elles ont franchi de longues distances, évidemment, depuis Montréal. Mais elles arrivent au lazaret. Or, c'est une pauvre cabane, finalement, où sont des lépreux, où elles vont s'enfermer elles-mêmes par amour de Dieu et des pauvres lépreux, dont elles veulent sérieusement soulager les souffrances et partager le sort. Hein? On parle souvent du père Damien et de quantité d'autres personnes, mais imaginez, 6 Québécoises qui partent comme ça et qui se rendent là pour soigner des lépreux au Nouveau-Brunswick, c'est tellement étrange, on peut pas imaginer ça. Hein? 30 septembre 1868, ce sont des religieuses cloîtrées que ces femmes à cette époque. Elle porte ce grand costume qui ressemble à celui des Ursulines ou des Bénédictines, costume traditionnel des religieuses, avec la guimpe, le voile, etc. Et elles viennent jeter les bases d'un monastère, donc, qui va éventuellement devenir acadien, puis devenir indépendant. La supérieure fondatrice est Mère Marie Pagé. Elle reste là seulement 8 mois, elle. Elle est rappelée à son monastère d'origine. En mai 1869 à Montréal. Et celle donc est appelée à édifier, à consolider à la fois cette œuvre et la communauté. Bien, c'est la plus jeune du groupe, Sœur Amada Vigée. Elle s'appelait en religion, étant donné son nom de Vigée, Saint-Jean de Gotteau. Ça arrivait qu'on leur donnait, chez ces sœurs-là, un nom de religion à l'occasion, quand le nom était déjà pris. Il devait y avoir une autre sœur Vigée, ou peut-être parce qu'elle était la fille d'un patriote, je ne sais pas. En tout cas, elle n'a que 23 ans à son arrivée à Tracadie. Et le lazaret, là où on garde, on appelle ça lazaret, hein, à la mémoire d'un Lazare dont il est question dans l'Évangile, pas le grand ami de Jésus, l'autre. Lazaret sera le théâtre donc de son dévouement pendant 34 ans. 34 ans, ça me rappelle une femme comme ça qui s'occupait de lépreux au Cameroun. Je me suis penché vers elle. Elle soignait un lépreux comme ça dans son beau costume de dominicaine. Et il y a bien longtemps, les sœurs portaient des costumes. Et puis, costume de dominicaine en blanc, imaginez. Puis je lui disais, depuis combien de temps faites-vous ça, ma sœur? Elle dit 29 ans, avec un beau sourire. Eh bien, elle, 34 ans. Alors, qui est donc cette jeune sœur qui arrive au lazaret à titre de pharmacienne, de maîtresse de novice, d'assistante à l'hospitalière? Eh bien, elle est née le 26 juillet 1845 à Boucherville. Chacun sait que c'est près de Montréal. Hein? Son père s'appelait Bonaventure Vigée, c'est lui le patriote, et Eudoxie Trudel. Elle est la fille d'un des chefs patriotes, d'ailleurs, de 1837. Et Bonaventure Vigée, qu'un historien dit avoir été l'un des chefs patriotes les plus populaires de 1837, était un homme intelligent, dit-on, actif, brave et d'un esprit vif et original. Hein? C'est ce que rapporte L.O. David dans ses écrits, la gerbe canadienne. Il avait d'abord organisé une résistance active à l'avance des troupes anglaises dans la région du Richelieu. Alors, il a détruit les ponts et il a dressé des embuscades. L'engagement définitif a eu lieu finalement entre son groupe de patriotes et les troupes anglaises au manoir de Saint-Charles, et le détachement de soldats a tout fait d'écraser évidemment la résistance de cette pauvre poignée de braves Québécois, ou Canadiens comme on les appelait dans le temps. Et Bonaventure Vigée échappe de justesse à la captivité en traversant la rivière à la nage. Et savez-vous que c'est en compagnie de Wilfred Nelson, autre patriote, qui s'enfuit aux États-Unis. Car il y avait des anglophones qui étaient des patriotes révoltés contre les Anglais d'Angleterre, hein, qui percevaient des impôts, etc. Et ayant de nouveau franchi la frontière, il est capturé lors d'une chasse à l'homme organisée dans la région, puis il est emprisonné à Montréal. Et finalement, l'arrivée de Lord Durham lui vaut d'être exilé, pauvre lui, aux Bermudes. Il y en a qui souhaiteraient peut-être être exilés aux Bermudes aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, c'était pas drôle. Il est parti avec sept autres patriotes sous menace de peine capitale, peine de mort, quoi, s'il revenait à Montréal sans autorisation. Alors, il paraît qu'à son retour, il se serait rangé, il se serait marié, il serait même devenu conservateur de près L.O. David. Et puis il ajoute avec une pointe d'humour, ce David, cet historien, que les Anglais achetaient et dégustaient sans crainte et sans scrupule le fromage que Bonaventure Vigée fabriquait et venait vendre à Montréal. Quant à la mère d'Amanda Vigée, Eudoxie Trudel, c'est une jeune femme très instruite, aussi distinguée, paraît-il, par son intelligence que par sa piété au sein de cette famille, vraiment honorable, profondément chrétienne, comme on dit toujours. Eh bien, Amanda grandit, s'épanouit, et de son père, bien, elle a hérité le tempérament ardent, hein. On dit même qu'elle a un tempérament de feu. Et vous allez voir, elle a un tempérament de feu, cette religieuse. C'est une sainte, à mon avis, mais une sainte concrète, hein? Les pieds à terre. Ses parents la placent très jeune au pensionnat des sœurs de la congrégation Notre-Dame à Boucherville. Et lorsqu'elle quitte cette maison à l'âge de 14 ans, elle sait parfaitement le français et l'anglais. Elle parle et écrit aussi bien dans l'une que dans l'autre de ces deux langues. Et les nombreuses lettres qu'elle écrit plus tard témoigne d'ailleurs de la facilité avec laquelle elle manie la plume. Elle écrit bien. Souvent, ces femmes-là écrivaient très très bien déjà à cette époque, vous savez. On connaissait bien la langue française. Elle avait un caractère gai, enjoué même. Et sa connaissance de l'anglais va lui être d'une grande utilité plus tard lorsqu'elle enseignera cette langue à Tracadie et qu'elle aura traité d'ailleurs avec les autorités civiles et religieuses anglophones du Nouveau-Brunswick. Les parents d'Amanda Vigée ne jouissent pas très longtemps de la compagnie de leur fille. Savez-vous ce qui se passe? Elle a décidé de se consacrer au Seigneur très vite. Et c'est le 8 septembre 1860, elle n'a que 15 ans, quand elle frappe, comme Thérèse l'Enfant Jésus, à la porte du noviciat des religieuses hospitalières de Saint-Joseph de Montréal. Mais là, le vieux monastère de la rue Saint-Paul, dans Vieux-Montréal, est alors en pleine démolition, car on se prépare à l'évacuer pour intégrer le nouvel Hôtel-Dieu qui s'élève au Mont-Sainte-Famille, sur le site actuel, sur l'avenue des Pins, près de Saint-Urbain, auprès de l'avenue du Parc. Et les travaux auxquels se livrent les sœurs n'ont rien de bien réjouissant pour la jeune postulante. Il paraît que, bien des fois, elle est bien fatiguée le soir. Puis, elle pourrait dire en bon québécois, elle garoche ses souliers sur le plancher en s'exclamant que je suis donc fatiguée. Bien sûr, je n'y tiendrai pas. Elle a 15-16 ans. Mais elle tient bon et longtemps, et la profession religieuse d'Amanda Vigée, retardée de quelques mois à cause de sa vivacité de caractère, aura lieu le 2 février 1863, donc 2 ans et demi après son arrivée. Elle n'a que 17 ans. C'est au moment de sa profession qu'elle se dépouille de son nom de famille. Quoique ce ne soit pas la coutume chez les hospitalières, comme je vous ai dit, sauf le cas où une autre sœur porte le même patronyme. Alors, on lui donne le nom de Saint-Jean de Gotteau, G-O-T-O, qui lui est attribué par qui? Par Monseigneur Ignace Bourget lui-même. En l'honneur des 26 martyrs japonais canonisés depuis peu, dont je vous ai déjà parlé et sur lesquels je reviendrai un jour, car c'est tellement merveilleux, le courage de ces Japonais il y a des siècles. Après sa profession, on la nomme à la pharmacie, puis au secrétariat de la communauté. Elle rend de grands services déjà, même si elle est bien jeune, comme aide à la secrétaire. Mais c'est surtout à la pharmacie que les talents de cette jeune sœur sont remarqués. Son esprit vif, qui est servi par une mémoire des plus heureuses, ça lui permet de saisir facilement et avec précision tous les détails de la pharmacologie d'alors. On peut rappeler qu'à cette époque, la pharmacienne faisait elle-même les médicaments. Vous savez ça, hein? Elle compose les onguents, les liniments prescrits par le médecin. La pharmacienne, elle accompagne aussi le médecin dans ses visites aux malades. Elle administre les médicaments, elle fait les pansements. À l'Hôtel Dieu, ici, là, sœur Amanda Vigée est appréciée tant des malades que des médecins avec qui elle travaille. Je vais toujours l'appeler Amanda Vigée plutôt que sœur Saint-Jean de Gotteau. Lorsqu'en janvier 1868, la communauté est pressentie, puis si elle accepte, d'envoyer des sœurs prendre soin des lépreux à Tracadie, sœur Amanda Vigée s'est tout de suite sentie appelée à cette mission difficile. Son père, M. Vigée, qui est mis au courant des projets de sa fille, il est revenu à Montréal, lui, exprime son opposition au projet. Mais Amanda lui répond, en faisant allusion à une expédition que son père a faite en Californie, elle lui dit, « Et quoi, mon père? Papa, vous n'avez pas craint de vous exiler pour aller chercher de l'or, et vous me refuseriez votre consentement pour aller me sacrifier dans un pays, le Nouveau-Brunswick, où j'espère trouver les moyens d'une plus grande sanctification? De grâce, laissez-moi partir. » Alors son père résiste pas devant une telle demande. Elle part avec 5 compagnes, le 3 septembre 1868. Le voyage se fait par bateau jusqu'à Chatham. Elles sont retenues quelque temps dans la ville où il y a l'évêque, le Mgr Rogers. Puis elles arrivent finalement à Tracadie le 29 septembre de la même année. Ça a donc pris à peu près 26 jours. Sœur Amanda Vigée, qui s'est procuré des remèdes à Montréal, elle a reçu un don de $120 de son oncle maternel, qui est l'abbé Jean-Narcisse Trudel. Sa mère est une Trudel, hein? Elle a tout fait d'installer sa petite pharmacie, puis on aménage l'ancienne chapelle des lépreux en y faisant placer des tablettes pour disposer les pots, puis les chevrettes, comme on disait, et puis toute la pharmacie, quoi. Une petite pharmacie. Et dès l'arrivée des sœurs, les malades de Tracadie puis des environs affluent à ce petit dispensaire. Ça devient un dispensaire. Même si les hospitalières sont venues à Tracadie principalement pour soigner des lépreux, elles acceptent de bon cœur de soulager les autres malades de la région. Et c'est donc à la pharmacienne, sœur Vigée, qu'on s'adresse alors, si bien qu'elle est bientôt appelée docteur par les gens de Tracadie. Puis le 9 février 1869, elle écrit à la supérieure de Montréal, c'est assez amusant cette lettre, elle dit, « Je suis ici non seulement médecin, mais encore docteur en médecine. » Elle a de l'humour, hein, elle est jeune, elle a 23 ans. Le gouvernement ayant retiré l'allocation du médecin de l'hôpital, le gouvernement anglophone, hein, le docteur Smith quitte Tracadie, de sorte que pour trouver un docteur, il faut faire plus de 30 000 à la ronde. Comme vous voyez, il nous vient des malades de 50 et même de plus de 60 000. Il faut bien au moins les payer de mine. Alors elle exerce pratiquement le rôle de médecin, mais elle se prend pas pour autant au sérieux, hein. Il y a une autre confidence à sa chère mère Pagée, alors à Montréal, qui nous apprend que les gens viennent au début, jusque de Kouchibouquac et de Bathurst, ce qui n'est pas à la porte. Alors, cette chère sœur Amanda Vigée, qui est rendue Tracadie au Nouveau-Brunswick, il lui faut très souvent diagnostiquer la maladie d'après les descriptions qu'on lui en fait. Il faut presque qu'elle devine. Et puis, elle compose ensuite un remède approprié, mais heureusement, elle a à sa disposition un bon cahier de recettes de pharmacie qui a été copié à la main par la pharmacienne de l'Hôtel-Dieu de Montréal, la sœur hospitalière ici à Montréal. Et ce document est d'ailleurs conservé au musée de Tracadie, où il y a encore, vous savez, là-bas, une douzaine de sœurs, hein? Les Acadiennes. Encore. Au mois d'août 1869, à 24 ans, elle commence à tenir compte du nombre de personnes qui viennent au dispensaire. Et le mois suivant, le 12 septembre, elle peut écrire « Depuis ce temps, j'en ai vu 365. et ça n'a pas été plus que de coutume. L'année suivante, le 6 février 1870, elle écrit depuis le 17 août, « J'en ai vu 1700. Comme vous voyez, ma chère mère, ça donne du badre. » C'est des expressions acadiennes. Hein. Pour ces gens qui n'ont que peu de contact avec des médecins, Sœur Vigée a des pouvoirs de guérison quasi miraculeux pour elle. C'est presque une sorcière. C'est un phénomène. Hein. Ils sont contents, ils sont heureux. Et la pharmacie est alors un art qu'on se transmet de génération en génération. Mais cependant, les hospitalières ne manquent pas de s'instruire, au moyen de la lecture, évidemment. Et le 18 juillet 1872, Sœur Vigée s'informe auprès de son homologue, la pharmacienne de Montréal, à propos d'un livre de médecine de Littré et Robin qu'elles ont acheté et qu'elles voudraient changer pour un autre meilleur. Alors elle veut progresser. Vous voyez que c'est une femme qui a les pieds à terre. Mais la grande préoccupation de Sœur Vigée est quand même ces malades lépreux. Curieux des lépreux, hein, au Nouveau-Brunswick. Comme elle voudrait les guérir, elle le souhaite, et un jour, elle entend dire qu'un vieillard de Caraquet connaît un remède pour la lèpre. Elle le fait donc venir de Tracadie, puis le vieillard consent à lui révéler son secret. C'est une décoction, dit-elle, de racines et d'écorces, mais c'est un ouvrage terrible. Et en effet, il s'agit de faire bouillir ses racines dans de grandes chaudières, sur le poêle de la buanderie, puis ensuite, il faut couler le liquide, puis le faire réduire. La tisane en frise, dit-on, et le poêle ne dérougit pas. C'est une autre sœur qui dit ça, puis elle dit, je vous assure que cette chère sœur Amanda Vigée n'arrête pas. Mais vous savez qu'elle ne craint pas sa peine, ni le travail. Mais en même temps qu'elles font tout leur possible pour guérir leurs malades, les sœurs mettent aussi le ciel de la partie, alors on prie surtout qui? La Sainte Famille, qui est une dévotion chère aux hospitalières de Saint-Joseph. Hein? Elles ont été fondées, d'ailleurs, par un père de famille. Qui? Jérôme le Royer de la Dauversière. Hein? C'est drôle, des sœurs fondées par un laïc père de famille. Alors, sœur Amanda Vigée essaie aussi un autre remède à base d'ambre gris dont le curé Gauvreau a trouvé la recette dans un vieux livre. Ça coûte cher, c'est d'une odeur insupportable, paraît-il. Mais malheureusement, les remèdes n'ont pas les effets escomptés. Elle dit, nos malades sont toujours lépreux malgré tous nos efforts, et les remèdes dont je vous ai parlé n'ont aucun effet, si ce n'est de les avancer peut-être un peu plus rapidement vers la tombe. Comme quoi, toutes ces médecines parallèles d'autrefois étaient souvent très dangereuses. Et cette courageuse pharmacienne qui est sœur Vigée ne se décourage pas pour autant. Elle dit, demain, je commencerai un autre remède que j'ai préparé ces jours-ci. Je ne me lasse pas de faire des expériences. D'ailleurs, ils ne peuvent pas rester sans remède. Ils seraient tous au désespoir. Ils sont si bien persuadés qu'ils peuvent guérir. Alors, l'arrivée des sœurs fait naître cet espoir, bien légitime, évidemment, de la guérison des lépreux. Mais le remède contre la lèpre n'est pas pour sitôt. C'est d'ailleurs en bonne partie une religieuse dominicaine médecin qui va découvrir ça beaucoup plus tard. On les traitera donc plus tard avec de l'huile de cholmougras, avec... Bon, mais c'est rare ceux qui peuvent supporter ça. Hein. Ce n'est qu'avec la découverte des sulfats au milieu du 20e siècle, justement, qu'on pourra arrêter la progression du mal, puis les rendre négatifs. Hein. Pour le moment, donc, il faut entretenir l'espoir dans le cœur de ces pauvres malheureux. Ils sont tellement pleins. Et l'un d'entre eux, qu'une sœur appelle la petite aveugle de ma sœur Vigée, est particulièrement défiguré. La description est terrible, mais toute sa figure n'offre à la vue qu'un morceau hideux de chair gâtée. Pauvre enfant, hein? Sa bouche n'est plus qu'une très petite ouverture par laquelle elle parvient avec grand peine à se jeter dans la gorge quelques aliments. Inutile de vous dire qu'elle exhale une odeur révoltante. Je vous lis ça, c'est pour vous montrer le dévouement de sœur Amanda Vigée. Les gens qui s'occupent des lépreux, on dit ça, ils s'occupent des lépreux, Il faut peut-être lire un jour 5-6 lignes sur ce que c'est. J'en ai vu des lépreux au Cameroun, j'en ai embrassé, j'en ai tenu dans mes bras. Je vous assure que ça fait pitié. Pauvres gens. Et les sœurs sont dans l'admiration devant sa patience et sa douceur. Pauvre petite fille, dit-il, jamais un mot de plainte. Toujours elle prie son chapelet, c'est ce qu'elle dit. Et afin de se faire une idée de l'état de ces malades et de la difficulté de les soigner, il y a d'autres descriptions. On raconte qu'il y a un jeune homme de 18 ans qui fait pitié à voir. Et les vers le rongent tout vivant. Et quand il se lève, les vers fourmillent dans son lit. Alors qu'est-ce qu'elle fait, sœur Vigée? Elle fait tout. Elle met vraiment tout son cœur et toutes ses énergies. C'est une Québécoise, ça, de Boucherville, de Montréal, qui fait ça. C'est pas nécessaire d'aller chercher en Hollande ou je ne sais où. Ses compagnes plutôt, sont dans l'admiration devant les efforts, puis la peine qu'elle se donne. La mère Paget, qui est pourtant assez énergique elle-même, dit dans une lettre en 1869 que sœur Amanda Vigée est malade. La pauvre sœur, si elle n'est pas morte, ce n'est pas parce qu'elle s'est ménagée auprès des lépreux et auprès de tous les malades du dehors qu'elle a soignés. C'est tout vous dire que sœur Canel n'a pu y tenir que 3 jours et elle est tombée malade de fatigue. Cependant, elle n'a fait qu'une petite partie de l'ouvrage que ma sœur Vigée fait habituellement. C'est pour vous dire le courage de cette femme. Les autres sœurs sont incapables d'aller si loin qu'elle. On pourrait croire que tout ce travail serait suffisant pour le zèle de sœur Vigée. Mais il n'en est rien. Une autre misère qui fait appel à sa générosité, c'est celle de l'ignorance, où les enfants de Tracadie végètent, faute d'école et de professeurs. Depuis l'arrivée des hospitalières, l'évêque Mgr Rogers n'a pas cessé de manifester le désir que les sœurs ouvrent une école pour l'éducation de ses enfants. Et le curé Gauvreau le désire aussi ardemment, mais c'est pas le gouvernement qui va payer, évidemment. Et c'est l'honorable pourtant Davidson qui vient de la rescousse des sœurs, car elles n'ont pas les moyens de faire bâtir une école. Alors il leur offre la charpente, lui, d'un magasin dont il ne se sert plus, parce qu'il a bon cœur, et ainsi qu'une certaine quantité de planches. Le curé Babineau lui donne 100 dollars. À l'époque, c'était beaucoup. Puis les paroissiens apportent du bardeau, puis quelques planches. Et voilà comment on construit une école. C'est incroyable. Ça fait pitié. Pauvres gens. Et le 8 août, quand même, le travail n'est pas encore fini, en 1873, car elle écrit aussi, la maison d'école a aussi été rapprochée. Puis il y avait du travail pour 78 hommes, puis 47 au souper. Puis elle nourrit tout ce monde-là. Et les travaux vont si bien que le 9 décembre 73, l'école est ouverte. Elle dit, vous apprendrez sans doute avec plaisir que nous avons enfin ouvert notre école, qui s'appelle l'Externat Saint-Joseph. Ils ont 50 élèves déjà. Et puis elle trouve ses élèves très intelligents et désireux de s'instruire. Et parmi eux, il y a une jeune fille de 18 ans qui commence à lire dans l'ABC avec un courage admirable à 18 ans. Le mobilier de l'école est réduit à sa plus simple expression. Et pour le moment, dit-elle, nous n'avons d'autre table qu'une contre-porte qui était dans la grange et une autre que notre révérend père Babineau nous a prêté, une autre porte. Pour faire des tas, il n'y a pas de luxe, mais le désir d'apprendre est si grand. Et le courage des institutrices, ces sœurs fantastiques, est si formidable que personne ne s'en plaint. Je vous lis tout ça parce que je suis ému aux larmes devant le courage de ces sœurs hospitalières et de sœur Amanda Vigée. Alors, on raconte que l'édifice de l'école, je vous ai parlé de sa pauvre école, est situé sur un terrain qui appartient aux sœurs. Et comme elles sont cloîtrées, hein, je vous l'ai bien dit au début, les sœurs hospitalières de Saint-Joseph, à l'époque, étaient cloîtrées. Le cloître est disparu, pour ainsi dire, il y a déjà, oh mon Dieu, un bon 50, 75 ans, et costume aussi, il reste plus rien de tout ça. Comme elles sont cloîtrées, donc, elles ont dû faire bâtir un pont couvert de 150 pieds de longueur qui part de la communauté et va joindre la remise, écrit-on, qui est au bout de la grange. Et de là, ils tournent vers la maison d'école, qui est en ligne directe avec la remise et la grange. Imaginez, étrange construction. Tous ces bâtiments sont situés plus près de la côte que l'hôtel du actuel, écrit-on. Alors, je dis ça pour ceux qui connaissent l'endroit. On peut se faire une idée de sa location ou de l'endroit quand on voit le cimetière des lépreux. Il y a un cimetière de lépreux là-bas. Et les vestiges des fondations à l'arrière du petit chalet des lépreux. Cet assemblage de bâtisses de paraître assez curieux aux gens d'alors, car la sœur Vigée ajoute, et c'est pour ça que je vous ai raconté ça, la sœur Vigée écrit, « Ça ressemble au dépôt des chars et plutôt au pont Victoria. Les gens d'ici sont émerveillés. Ils disent n'avoir jamais vu pareil bâtisse. Ils ont bien raison, car le passage réunit sept bâtisses, ce qui est un peu singulier. On va à la bonne franquette. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord, parce qu'ils n'ont pas d'aide, ou presque. Dès l'année suivante, le nombre d'enfants à l'école est passé à 124, ce qui est beaucoup pour ces sœurs, qui ont bien d'autres choses à faire. Et le premier examen public a lieu le 29 juillet, puis Mgr Rogers, toujours l'évêque, là, ainsi que plusieurs prêtres, venus assister à la bénédiction de la première pierre de la nouvelle église de Tracadie, enfin de la pierre, assistent à la séance. Nous n'avons fait que présenter quelques classes françaises et anglaises pour ne pas trop prolonger, dit Sœur Vigée, dans une de ses lettres. Elle veut dire par là quelles sont les principales matières enseignées. Curieux, hein? Et la fin de sa lettre nous renseigne aussi sur quelques-uns des livres employés. Elle demande à ses sœurs de lui acheter chez Lovell, de la rue Craig à Montréal. Comme vous voyez, c'était bien anglais, Lovell, puis la rue Craig. Le livre français quand même, « Solutions et réponses pour la 11e édition de l'arithmétique des frères, ancien cours », ainsi que le livre « Key to Lenny's Grammar », comme quoi c'était bien bilingue. Et au début, elles sont deux à enseigner. La sœur Vigée, puis une postulante. Elle n'arrête pas, cette sœur Vigée. Cette sœur postulante, c'est la sœur Parent, qui en vaut deux, paraît-il. La sœur Marguerite Haché, qui sera aussi affectée à l'enseignement. Puisque ce n'est pas une école sous la loi civile, là, les sœurs ne sont pas payées, pas un sou. Elles sont donc obligées de demander $3 par an aux élèves de Tracadie, $3, et $4 pour ceux de l'extérieur, en dehors de Tracadie. Au bout de quelque temps, plus personne d'ailleurs ne donne rien, ils sont trop pauvres. Une école publique, elle, a été construite en face de celle des sœurs. L'école financée par le gouvernement anglophone du Nouveau-Brunswick. Hein. Et les parents, taxés pour cette école, ne peuvent plus rien donner à celle des sœurs. C'est comme ça que ça se passait dans le temps. Hein. L'école publique était anglaise, les Canadiens français payaient des taxes, les taxes allaient à l'école anglaise, puis là, il ne restait plus un sou pour les écoles françaises. C'était comme ça à travers tout le Canada. Je dis ça avec une certaine rage, car je trouve ça d'une telle injustice. On se révolte contre l'injustice qui se passe dans d'autres pays. Révoltons-nous aussi contre ce qui s'est passé ici. Grand Dieu, c'est terrible. Ces gens qui ont souffert. Et bientôt, le nombre d'élèves diminue aux deux écoles et finalement, les sœurs acceptent, en 1876, d'enseigner sous la loi, tout en y mettant leurs conditions parce qu'elles ne passent pas les examens requis. Elles sont classifiées de troisième classe, hein? Pas des enseignantes diplômées, quoi. L'enseignement quasi dispense leur aurait valu le titre d'école modèle, pourtant, d'après des observateurs, même anglophones. Et à partir de ce temps, les sœurs reçoivent enfin près de $400 par année. Et si le nombre d'élèves vient à exiger plus de deux institutrices, elles recevront $30 de plus pour chaque surnuméraire. Pas beaucoup. Les hospitalières sont très satisfaites quand même de cet arrangement. Oh, d'autant plus qu'elles conservent l'usage de leur manuel et qu'elles ne sont plus obligées d'enlever ni crucifix ni images des classes, car elles étaient obligées d'enlever les crucifix puis les images religieuses du Sacré-Cœur et du Saint-Cœur de Marie, etc., des classes. Hein? Les protestants ne voulaient pas voir ça dans ces écoles catholiques. L'école publique dite protestante, anglaise évidemment, se met à leur faire compétition en essayant d'y attirer, dit-elle, nos meilleurs enfants. Et finalement, les sœurs se retirent de l'école le 18 décembre 1885, à cause, écrit Sœur Vigée, de certaines difficultés, mais elle dit pas tellement ce que c'est, qui se sont élevées par les artifices de quelques protestants francs-maçons de la paroisse. Toujours cette persécution. Persécution, persécution, persécution. Sœur Brault vient aussi d'être rappelée à Montréal, ce qui réduit le nombre de sœurs auprès des malades. Pauvre Sœur Vigée, elle a perdu sa sœur Brault. Cependant, l'œuvre de l'éducation va prendre une autre forme bientôt avec l'acception des orphelins. Suite à la guérison miraculeuse de deux jeunes sœurs de la maison, les sœurs Blanchard et Marie des Anges Doucet, en 1888. Là, Sœur Vigée a rempli l'office de secrétaire finalement de la communauté pendant 18 ans. Et les relations, les lettres, là, entre les différents monastères des hospitalières, se font à intervalles réguliers, 3 fois par année. Aux offices, en septembre, à Noël et au Nouvel An et à Pâques. Hein? Donc, septembre, Noël ou Nouvel An, puis Pâques. La secrétaire doit écrire à chacune de ces maisons une lettre qui est nécessairement manuscrite, s'il n'y a pas de photocopieuse dans le temps. Oh, puis pas d'Internet et pas d'e-mail. Ce qui doit évidemment lui prendre assez de temps, pauvre elle. Mais pour les sœurs qui viennent fonder à Tracadie, on peut facilement deviner que la correspondance est beaucoup plus fréquente. La secrétaire raconte aux sœurs de l'Hôtel-Dieu de Montréal les menus faits et gestes de la vie du lazaret puis des lépreux. Et quelquefois aussi les événements marquants du village de Tracadie. Par exemple, on apprend qu'en 1872, le télégraphe est installé à Tracadie. Enfin, le télégraphe qui permet de correspondre. « Tous les pavillons sont hissés », écrit la secrétaire. « Demain, 19 juin, Tracadie sera en communication avec l'univers entier. » Oui, 1872. On comprend la joie des hospitalières, qui par ce moyen seront moins isolées de leurs sœurs de Montréal. Elles se réjouissent aussi de ce que cela donnera de l'importance à cette paroisse de Tracadie, facilitera son progrès. Alors, il y a une épidémie de picotes, tout à coup, dans la région de Pocmouche et de Caraquette. C'est raconté avec d'intéressants détails, puisque deux hospitalières vont elles-mêmes soigner les picotés à Caraquette en 1874. Je vous raconte tout ça, c'est pour montrer dans les détails concrets le courage de ces femmes admirables. Les événements paroissiaux sont également signalés, hein? Il y a des retraites paroissiales, l'arrivée d'un vicaire, d'un nouveau curé, la bénédiction de la première pierre de l'Église en 1974, le premier examen de l'externat Saint-Joseph la même année. On apprend également qu'en 1972, il y a une goélette de M. Davidson qui a fait côte, elle a coulé au goulet de Tracadie. Mais ce sont surtout des événements qui se passent à l'intérieur de la léproserie, ou si vous voulez, du lazaret, dont Sœur Vigée entretient les Sœurs de Montréal, et souvent elle se plaît à employer des mots du terroir acadien qu'elle sait, qui vont être compris par la mère Pagé tout au moins. Hein. Et là, le départ prématuré de la supérieure fondatrice a causé un grand émoi dans la jeune communauté, je vous en avais parlé au début. Alors, comme le lendemain de son départ était un dimanche, et que les Sœurs avaient encore pleuré ce jour-là, elle décide que le salut du Saint-Sacrement aura lieu à 6 heures. Et puis finalement, tout se sait, et c'est plein de monde. Et la vénération des gens de Tracadie touche beaucoup les sœurs. Les gens aiment ces sœurs. Ils aiment leur grande générosité. Pourtant, elles sont pauvres. La secrétaire en fait part souvent aux sœurs. Hein. Puis il en va de même du curé Gauvreau qui organise des fraliques, comme on dit, pour haler le bois des sœurs. Il est tellement heureux, et son bon peuple partage son bonheur de posséder des saintes sœurs, comme il dit. Un jour, raconte la secrétaire, une sainte fille vient apporter aux sœurs 2 petits pains de sucre pour les féliciter d'être venues à Tracadie. C'est le bol d'une pauvre, je me souviens de cette lépreuse qui m'avait donné 2 œufs dans sa petite... les branchages sur lesquels elle vivait, parce qu'elle avait une petite poule, elle m'avait donné ses 2 œufs. Et mes sœurs admirent la foi qui inspire ces gestes. C'est tellement touchant quand on voit ces pauvres, pauvres, qui nous donnent, et il faut accepter, on peut pas refuser. Que ces gens sont donc admirables, écrit-elle. Comme ils ont de la foi, comme ils sont pauvres et misérables et qu'ils me font pitié. Les nombreuses lettres de la secrétaire Sœur Vigée nous font aussi pénétrer dans l'univers intime de celle-ci et la font se révéler elle-même. Son sens de l'humour l'empêche de dramatiser certaines choses. Et le 6 février 1870, elle demande à la supérieure de Montréal de prier pour elle, parce que Charlot, le malin, c'est comme ça qu'elle l'appelle, hein, Charlot, le diable, rôde sans cesse, dit-elle, comme autrefois, il ne respecte pas ma sainteté du tout. Et elle ajoute sur le même ton, j'ai reçu en présent une belle petite moutonne. C'est-il pas beau, ça? Une bonne mère. Ma bonne mère n'accusez que mon pauvre cœur, qui aime tant à vous dire et à vous redire qu'il vous aime tendrement. Je vois par votre dernière lettre que vous daignez vous souvenir de votre si maussade fille, hein, parce qu'elle a du caractère, Sœur Vigée. Vos chères lettres font à toutes un si grand plaisir qu'en les lisant toutes, nous sommes aussi émoustillés qu'une pochette souris. Qu'elle est sympathique, hein? Dans une autre lettre, elle s'exclame, « Nous aimons tant notre chez nous. » Et ce cher chez nous, elle ne le verra qu'une fois en 34 ans. C'est en 1879-80 qu'elle s'y rend, et au retour, elle ne tarit pas de remerciements envers toutes et chacune des sœurs de Montréal. Elle n'a fait qu'en 34 ans qu'un seul voyage à Montréal. C'est vraiment une exilée. Elle écrit même une lettre où elle dit un mot à chacune de des quelques 60 sœurs de la communauté de Montréal. Et elle résume enfin en disant finement, « Mes sentiments sont comme ceux de la reine de Saba. Ce que j'ai vu et entendu surpasse tout ce que j'aurais imaginé. » À cette occasion, le retour à Tracadie se fait par train au lieu du bateau. Monsieur Rogers vient lui-même rencontrer les sœurs à 3 heures du matin, bon évêque, hein, à Newcastle. Il les conduit chez leur sœur à Chatham. Et les gens de Tracadie saluent joyeusement leur arrivée, tout comme ils l'ont fait en 1868. Elle dit, nous étions encore à une bonne distance lorsque les décharges de fusils commencent à se faire entendre. C'est un peu comme chez les Arabes qui tirent du fusil comme ça. Les lépreux aussi ont organisé une fête d'accueil. Elle écrit, ses chers malades ont appris un compliment dialogué qui exprime très bien leur sentiment de joie et de reconnaissance. Du chant, des détonations de fusil, rien ne manque à la tête. C'est si beau qu'il a fallu payer un léger tribut et laisser couler les larmes. Mes chers lépreux, cette femme au cœur sensible et aimant se remet d'aviger, et cependant assez dur pour elle-même. Une sœur écrit, « Notre chère mère, Vigée, est beaucoup fatiguée, mais il ne faut pas lui parler de s'accorder un peu de repos. Sa rare énergie lui fait mépriser toutes ses indispositions. » L'analyste de l'Hôtel-Dieu de Montréal la décrit bien lorsqu'elle dit, « Car en la mère Vigée, la tête est bonne et solide, mais le cœur vaut 100 fois mieux. » Imaginez. L'amour qu'elle porte à ses sœurs et à ses malades témoigne évidemment de la véracité de cette assertion. Là, elle devient supérieure chez les hospitalières. À cette époque, la supérieure de la communauté est en même temps la directrice de l'œuvre. Et quand sœur Vigée est élue à ce poste de supérieure en septembre 1875, elle n'avait alors que 30 ans, ce qui montre l'estime que lui portaient déjà ses compagnes. Et cette nouvelle élue trouve que l'on dépose un lourd fardeau sur ses jeunes épaules et qu'elle est vraiment trop jeune et dépourvue des vertus et qualités nécessaires pour remplir cette tâche. Elle se connaît, hein? Moi, je la trouve que c'est une sainte. Mais elle se reprend bien vite. Dieu le veut, écrit-elle. Parole qui me donne force et courage. Oui, Dieu le veut sera ma devise et mon cri de ralliement. Alors elle se propose aussi de gouverner dans un esprit de douceur et d'humilité. Alors, sœur Vigée est à la fois une femme pratique et une femme de vision. Et dès le début de son premier triennat, 3 années comme supérieure, elle rêve de bâtir un monastère et un lazaret en pierre, enfin en pierre, car elle est consciente de la précarité de celui qu'elle habite. Et les locaux sont extrêmement froids, c'est froid, le danger de feu aussi. Et une autre raison, c'est pas la moindre, en faveur d'une nouvelle construction en pierre, c'est qu'elle souffre de ne pouvoir soigner les grands malades qui se présentent à elle. Comme elle dit, si nous avions un appartement au moins où nous pourrions recevoir quelqu'un, alors le vicaire, M. Nugent, est très malade. Personne ne veut le soigner et les sœurs sont obligées d'aller le veiller à tous les soirs. Oh, je vous assure que tout cela nous fait tourmenter notre bon père Saint-Joseph pour qu'il nous fasse trouver le moyen de bâtir. Et dès 1876, elle a fait tirer 50 cordes de pierre de la carrière, prêtes à être transportées sur leur terrain. 50 cordes de pierre. Mais le coût s'élève à 4 000 $. Elle n'a pas le moyen de le payer. En y pensant, la tête me tourne, dit-elle, car quand aurons-nous assez de cela? Et combien de temps elle va attendre pour payer? Elle devra attendre 20 longues années. Non, le gouvernement anglais ne paie pas. Avant que ces pierres ne servent à un nouvel édifice, 20 ans, 20 ans, pauvre sœur Vigée, pauvre petite sœur. Alors, en attendant que l'idée d'un lazaret, d'un endroit pour garder les lépreux, soit construit en pierre, et que ce soit accepté par le gouvernement fédéral, sœur Amanda Vigée fait tout son possible pour améliorer le sort de ces lépreux. En 1887, elle fait bâtir une galerie à l'étage des femmes. Elle dit, si vous voyez comme elles sont bien maintenant sur leur grande galerie où l'air est si pur et si bon. Mais ce qui réjouit encore plus tous les lépreux, c'est l'achat d'un bateau à leur usage. Oui, voguer sur l'eau à leur gré, quelle précieuse liberté pour ces pauvres cloîtrés, enfermés, oubliés, derrière des clôtures. Il a fallu mettre des clôtures de bois blanc, pour éviter que les gens approchent trop. Et c'est justement la sœur Marianne Doucet qui remplace sœur Vigée à un moment donné comme supérieure en 87, parce que le 25e anniversaire de profession de sœur Vigée en 88 fournit l'occasion aux sœurs de lui exprimer leur reconnaissance. On écrit « Elle est vraiment admirable en sacrifice, en dévouement et en générosité. » Et sœur Doucet la remercie de la leur avoir laissée pour... remercie la supérieure de leur avoir laissé pour aider à établir et ensuite à conduire cette petite communauté. Sœur Amanda Vigée reprend finalement les rênes du gouvernement, redevient supérieure. En 93, elle va enfin voir la réalisation de ses rêves. Le gouvernement fédéral décide finalement, enfin, de construire un lazaret en pierre pour remplacer celui qui se détériore visiblement. Il y a même eu des poutres pourries, je vous ai pas raconté ça, les étages sont tombés, c'est effrayant. Les sœurs ont finalement de l'avance et les plans dressés par sœur Doucet et sœur Sicotte sont prêts. Mais le gouvernement fédéral les juge trop grands. Ottawa n'aime pas ça. Et les sœurs doivent recommencer. Les seconds plans sont cependant acceptés finalement et réalisés. Mais la sœur Vigée n'oublie pas les autres malades ni les orphelins et pendant que les travaux du lazaret avancent, elle se met en frais de trouver des fonds pour construire une aile attenant au nouvel édifice, pour loger les orphelins, abriter un petit hôpital. Il y a des prêtres qui donnent des dons, et c'est comme ça, et des catholiques qui aident. Mais l'évêque ne leur permet pas d'emprunter quand même. Ils doivent continuer. Le lazaret est terminé en 1896. Et là, le 8 mars, tout le monde entre dans ce nouveau lazaret de pierre, et on peut facilement imaginer la joie des lépreux. Nos pauvres malades sont au comble de la joie, quelques-uns en pleurs de bonheur. Et sœur Amanda Vigée peut donc se consacrer tout entière aux travaux de la nouvelle bâtisse. Une sœur écrit, elle s'est chargée elle-même de la conduite de la bâtisse de l'orphelinat, ce qui lui a occasionné bien des fatigues. Ses jambes sont devenues enflées et les douleurs sont telles qu'elle ne peut dormir durant la nuit. Et malgré tout cela, on la trouve de nouveau sur le chantier le lendemain matin. Puis enfin, le 3 septembre 1898, la mère Vigée annonce à l'évêque que les orphelins peuvent intégrer leurs locaux dans le nouvel édifice. Et là, la partie destinée à l'hôpital sera terminée vers la fin octobre. Et à l'ouverture en 1898, le 1er novembre, à la fête de la Toussaint, on y admet 6 malades. Le rêve caressé par la sœur Vigée se voit donc réaliser, mais cette religieuse extrêmement courageuse est de plus en plus malade. Elle souffre de fièvre rhumatismale et d'un mal à l'épaule et au bras droit. Elle passe plusieurs mois à l'infirmerie à la fin de l'année 98 jusqu'en avril 99. Il y a une épidémie de diphtérie qui frappe cette année-là la communauté, puis le lazaret. 17 sœurs, pauvres sœurs, en sont atteintes et 2 lépreux en meurent. Oh. Sœur Vigée apprend à la supérieure de Montréal que les sœurs n'ont pas fait carême cette année-là. Elle a l'esprit ouvert, sœur Vigée. Elle dit, nous avons fait sans scrupule 3 bons repas par jour. En septembre 1899, elle achève son 5e mandat comme supérieure. Cette santé laisse de plus en plus à désirer. Le 5 septembre 1900, la secrétaire de la communauté écrit que sœur Vigée est retenue au lit par sa maladie, maladie de cœur, de fortes douleurs névralgiques. Elle n'a que 55 ans. Elle est usée. Elle a abusé de ses forces. Oh, nous avons encore besoin de ses exemples pour nous édifier, de ses conseils dans nos petites difficultés, de son bon cœur pour nous aimer et nous entraîner à sa suite dans les voies ardues de la perfection. C'est ce qu'écrit une des sœurs. Le temps approche où elle va laisser cette solitude des solitudes. La solitude des solitudes, c'est pour elle le Nouveau-Brunswick là-bas, ce lieu d'exil. Elle a vu disparaître leur premier lazaret dans les flammes, peu de temps après qu'elles soient entrées dans le nouveau, en pierre. Les lépreux habitent maintenant leur grande demeure, leur sort est amélioré. Alors là, au mois d'août 1902, elle est appelée à Arthabaska sur Vigée, afin d'y remplir encore la fonction supérieure de cette communauté fondée en 1883. Alors, sur Vigée, l'Estracadie, au milieu d'un regret général. Et les plus affectés de ce départ sont évidemment les novices, dont elle a encore la charge et qu'elle stimulait. Ça doit être terrible pour les novices de perdre une mère comme ça. Puis les pauvres lépreux, qui l'ont toujours considérée comme leur mère aussi. Ses sœurs qui l'ont vue au lazaret pratiquer des actes de vertu tels qu'on en rapporte dans la vie des saints, éprouvent une douleur immense en voyant partir celle qui les a toutes formées à la vie religieuse. Et même Mgr Rogers, de son vivant, a dit ne pas avoir d'expression pour rendre ce que cette religieuse a fait dans son diocèse. Qu'est-ce qu'on attend pour la canoniser? À Arthabaska, sur Vigée, trouve un hôpital en grande difficulté. Elle se met tout de suite à la tâche. Elle fait tout, tout, tout. Elle fait même le blanchissage du linge, imaginez. Elle dit, je ne sais comment je suis faite, mais je ne puis refuser les pauvres. Je préférerais coucher dehors, plutôt que de rejeter un pauvre de Jésus-Christ. C'est ce qu'elle écrit à sa sœur, Madame Joseph Rochelot, le 2 janvier 1904. Mais cependant, ses sœurs trouvent qu'elle a un zèle quelque peu impatient, car, n'oublions jamais, les saints sont souvent impatientants. Elle est réélue supérieure en 1905, elle ne termine pas son mandat. Et une première intervention chirurgicale à l'Hôtel-Dieu de Montréal lui apporte un certain bien. Elle retourne à Arthabaska et elle dit en arrivant à Arthabaska, « C'est ici le lieu de mon repos à jamais. Elle veut y mourir. » Elle essaie en vain de reprendre ses activités, mais il lui faut s'avouer vaincu par le mal. Et c'est le 8 mai 1906 qu'elle expire. Elle a 61 ans seulement. Et ce jour-là, c'était, je me semble, une femme forte comme les Québécoises en fournissent tant qu'on oublie. Pourquoi les oublie-t-on? Une femme courageuse, une hospitalière extraordinaire, enthousiaste, une des grandes figures de la congrégation des hospitalières de Saint-Joseph. Cette grande Québécoise, ignorée aujourd'hui, oubliée, laisse derrière elle, à Tracadie, comme à Arthabaska, des filles spirituelles qui marchent sur ses traces, continuent son œuvre. Jusqu'à aujourd'hui, mon Dieu, que ces femmes sont fantastiques. Où sont ces femmes aujourd'hui? J'espère qu'il y en a d'autres à la relève. Hein?